14h.
Non, ça ne veut pas être anticapitaliste, enfin. Je sais que je peux dire ça parce que c'est Radio Campus.
Radio Campus, la radio qui vous secoue les puces.
Thompson, le vieux fermier, a beaucoup d'ennuis. Il n'arrive pas à se débarrasser de son vieux gros chat gris. Pour mettre à la porte son chat, il a tenté n'importe quoi. Il a même posté au Canada et lui a dit « Tu resteras là ». Ah, mais le matou revient le jour suivant. Le matou revient, il est toujours vivant. Thompson paye un petit gars pour assassiner le chat. L'enfant part à la pêche, l'animal dans ses bras. Au milieu de la rivière, le canot a coulé. Le fermier apprend que l'enfant s'est noyé.
Bonjour, vous écoutez Le Matou revient avec Patachou, aujourd'hui exceptionnellement, donc le vendredi. Alors que d'habitude, nous nous retrouvons le lundi, le deuxième lundi de chaque mois à 8h. Aujourd'hui donc, le début du sixième chapitre intitulé « Le rétablissement » de la fiction radio « Bipolherbe folle, itinéraire d'une corsaire de la psyché, une saga pleine de suspense et de rebondissements » réalisée par la célèbre Patricia Ancens. Après une nouvelle période d'excitation anormale, c'est l'heure du diagnostic. Aurélie va devoir vivre avec, elle découvre des ressources sur lesquelles elle peut s'appuyer pour avancer. MGEN, groupe d'entraide, formation au rétablissement, etc. L'occasion de sensibiliser aussi ses collègues aux troubles psychiques qui peuvent concerner tout le monde à un moment de sa vie. Deviendrait-elle une experte S-vulnérabilité ? Les illustrations de Mathilde Gros seront décrites cette fois-ci par Michel Mathieu, Antoine Collier et Marie Grémet. D'autres voix mettront leur grain de sel marin, comme celle d'Anna Piraneo, de Dominique Spengler, de Colette Gras, de Chloé Donati, de Stéphanie Prien et de Magali Nérac. Les musiques que vous entendrez sont de Judith Grisel-Ouvre, salut à toi, Vincent Bruzel, Marc Namour et Loïc Lantoine. On entendra aussi des extraits de musique du groupe Tina Ruwen.
J'aime les gens qui doutent.
Je vois sur cette illustration une femme se tenant debout sur deux rochers, me semble-t-il. Elle se tient jambes écartées avec les poings sur les hanches. Elle est droite. En dessous, il y a un petit bol et tout ça est sur un fond gris-bleu avec derrière du jaune et des rochers écrus. Par contre, la robe de cette femme est d'un violet rose soutenu, contrastant avec le reste. Alors, ça m'évoque par la masse de cette femme, sa verticalité, sa part combative, sa part qui dirait « Vas-y, viens vers moi, je peux faire face. » Et à la fois une verticalité qui pourtant pourrait aussi être trop raide pour faire face aussi. Alors il y a ce petit bol en dessous qui est un peu étonnant là pour le coup, comme si ça pouvait recueillir ses urines, c'est un peu bizarre ce que je vais dire, hein, mais en même temps elle est vraiment jambes écartées au-dessus de ce bol, c'est un petit peu étrange. Et en tout cas elle est sur du roc bien planté et les rocs l'aident. Et c'est sa robe aussi qui m'évoque de la vivacité. Et ses cheveux aussi sont parfaits, en fait. Il y a quelque chose qui est parfait, qui sont posés sur sa nuque.
Chapitre 6, le rétablissement.
En 3 jours, c'est reparti. La veille de sa reprise au boulot, Aurélie se rend chez ses parents. jardine frénétiquement durant plusieurs heures, puis s'effondre. Rechute, peur, torpeur, malaise. Elle ne veut surtout pas repartir en arrêt maladie, s'arc-boute. Mais le retour au travail et à la vie quotidienne sont rudes. Et surtout, elle ne comprend pas pourquoi. Ou comprend trop bien. Sa thérapeute se renseigne auprès d'un confrère, parle d'éventualité. Le docteur Elie-Crise la reçoit, confirme. Bon, ce n'est pas normal que vous rechutiez encore. Il va falloir malheureusement l'admettre, vous souffrez du trouble bipolaire de type 2, c'est-à-dire que vous alternez des phases dépressives et excitées, hypomaniaques. Mais c'est plutôt la dépression qui vous caractérise. Le positif de la chose, c'est que nous avons des médicaments pour contenir les hauts et les bas. En route pour les antipsychotiques. Elle sort du cabinet sonnée et en même temps soulagée. Il va falloir vivre avec cela. Elle comprend mieux sa vie passée à la lumière de cette maladie restée longtemps à l'état de terrain. Ses alternances de périodes de déprime et d'enthousiasme débridé, son côté dispersé, probablement déjà un tempérament cyclothymique, a dit la psychiatre. Le puzzle se forme peu à peu. Mais vivre avec ça, comment faire? Elle s'inquiète. Pourtant, les nouveaux médicaments agissent. Au bout de quelques semaines, le moral remonte, l'énergie affleure. Il faut dompter les trop-pleins, les cadrer. Pas toujours facile. Il faut aussi, en période basse, ne pas se laisser choir au risque du désespoir. Remettre des coups de pédale pour rester à flot. Bref, s'adapter. Elle se souvient avec amertume de certains soignants d'avant. Son médecin traitant. « Vous n'êtes pas bipolaire, je vous connais depuis longtemps. » Plus tard, elle lui dira qu'elle avait toujours su que sa patiente l'était. Et ce psychiatre renommé rencontré avant d'être hospitalisé. Elle se serait crue dans un salon où l'on cause. « Oui, vous êtes probablement bipolaire. J'en ai vu des plus explosifs, comme ce responsable qui avait soudain agressé sexuellement ses collègues. Je vais vous prescrire du lithium homéopathique et de la laisser repartir sans autre rendez-vous, déchargée d'une bonne somme. » Elle devrait s'estimer heureuse. Elle apprend ainsi que le diagnostic arrive en moyenne 10 ans après le déclenchement de la maladie, qu'on prend souvent pour une succession de dépressions, et que la moitié des bipolaires font une tentative de suicide, souvent avant le diagnostic. Lui reviennent ces périodes où elle s'accrochait si fort au mât pour ne pas chuter à Boulogne durant tous ces mois, avant la rentrée en catastrophe à Lille 1 an auparavant. Elle s'était lancée dans une aventure alors que le mal-être la minait déjà. Mais c'était une telle occasion à ne pas manquer pour avancer et gagner un peu d'argent aussi. L'argent qui commençait à manquer sérieusement dans le couple, alors que son lino, en passage à vide, semblait s'embourber dans le chômage. L'idée était bonne. Utiliser la radio pour permettre à des griffés de s'exprimer. Les amener à interviewer des personnes au parcours sinueux pour comprendre qu'elles aussi pouvaient tracer leur propre chemin, reprendre confiance en la vie, donner envie, rien que ça. Elle y croyait fort à cette possibilité de leur transmettre la flamme. Elle n'avait pas tout prévu. Le premier jour, alors qu'elle a minutieusement tout préparé, les stagiaires ruent dans les brancards, piétinent son beau programme humaniste. « Je vous propose de vous présenter en parlant dans le micro. » Je ne le ferai pas, on m'a forcé à venir ici, sinon je n'aurai plus mon RSA. Moi non plus, je ne veux pas participer à ce truc infantilisant. Je veux du travail. De toute façon, il n'y en a pas de boulot. Laissez-nous rentrer chez nous. » Et voilà deux hommes qui s'écharpent et s'insultent pendant la séance. Et s'ils en venaient aux mains? Complètement démontée, elle passe à l'exercice suivant dans une ambiance de cage aux fauves. Elle tient jusqu'au bout, veut maintenir sa posture d'ouverture, de bienveillance, tandis que les salariés de l'association qui pilote le dispositif d'insertion interviennent pour resserrer la vis. Elle plonge dans le découragement en rentrant chez elle. Mais comment a-t-elle pu penser réussir? Comment a-t-elle pu imaginer transmettre cette confiance en soi dont elle a tant manqué depuis le départ à Boulogne? Tout lui revient en boomerang. Son sentiment d'être une imposteur, de n'avoir pas sa place ici, d'être incapable de tenir un groupe. Abandonner, lâcher l'affaire.
Ses cernes criaient grâce, emmitouffées, ruisselantes. Elle était là, les bras qui balaient, avec ses morceaux de pluie, de vent et de soleil épars, éperdue d'étonnement, désemparée devant ces choses de vent qui passent et la pensent. Thank you.
guarana. J'en ai besoin, j'en ai besoin.
Be Frankie.
J'en ai besoin. J'en ai besoin. Guarana, j'en ai besoin, jamais personne qui me retient. Moins t'es sain et moins tu tiens, plus au petit soin je vois l'opticien. Regarde ma silhouette, je ne sais pas où mettre quelques Oscars, garder ses pas, car pris en otage, chronophage, c'est dommage. Un dossier colossal, ça m'endommage. Douleur intercostale, quelques Oscars, garder ses parts, je pose des armes. Enfin je peins, sans épingle, c'est le programme, je me désincarne. Vie détruite à chaque soupir, je ne pense plus à me nourrir pour aboutir, pour réussir. Travailler la nuit, ça suffit. J'arrive à tout faire pour le moment. En notant, c'est du donnant, donnant. C'est le prix coûtant, mirobolant. C'est pas la peine de courir comme des damnés. Année après année, toujours plus en apnée. J'en ai de plus en plus marre. Le repos est rare. On s'arrête quand je marche en arrière. Je pose des armes, mon pari que je pars harasser pour quelques caras. Quelques Oscars gardés, c'est pas mon alarme au sirop d'érable. J'en suis malade, ce sera fatal. Cycle infernal, un cataclysme qui se prépare. Bien trop mal depuis le Horla, depuis la chorale. Passe la nuit sur les dos d'âne dans le coma. C'est plus la Ola, maintenant je dors mal. Dernier hommage avant le naufrage. Bien trop mal depuis le Horla, depuis la chorale. Passe la nuit sur les dos d'âne dans le coma. C'est plus la Ola, maintenant je dors mal. Dernier hommage avant le naufrage. Je vais faire un café 12 mètres. Je ne sais pas où mettre, je ne sais plus m'y mettre. Regarde ma silhouette, je vais plus loin que mon périmètre. Avec ma trottinette, je me libère. Une montagne de choses à faire, les sauvegardes pas temps de les faire. On va voir où ça nous mène. Tous les jours je me démène, range tes mails, rituel. J'ai pas le temps pour le réel. Et finalement je me demande si je préférerais ma vie précaire. Pris en otage, le décor se corse car c'est la course. Pas le temps pour l'amour, sans aucun temps mort. Dans les transports, je m'endors et je me porte avant la prochaine entorse. Fais un vœu avant d'être vieux, après les étoiles dans les yeux, les étoiles dans les cieux. Laborieux, vie nocive et anxieux, mais qui est aussi vivant que moi quand il pleut.
Regardez la situation à l'inverse. Ils vous ont fait le cadeau de leur état, de leurs propres difficultés. Accueillez-les, lui dit Hyacinthe. Le thérapeute boulonnais qu'elle voit depuis quelques semaines. Vous leur proposez une occasion de sortir de chez eux, de s'ouvrir à d'autres horizons, de s'exprimer aussi sur leur vie et leurs envies. À eux de prendre la main tendue. Et puis vous avez le droit d'expérimenter et d'échouer, puis de recommencer et peu à peu d'apprendre. Cette peur qui vous paralyse, vous pouvez la traverser. Proposez-leur un deal. Vous me faites confiance et moi je vous apprends. Aurélie tente de se mettre à l'écoute de son moi profond, de ses désirs. Elle peut s'appuyer sur son plaisir à faire de la radio, son enthousiasme à interviewer les autres. Et puis elle n'est pas obligée de jouer à l'autoritaire si ce n'est pas son penchant. Elle n'a qu'à être authentique, les amener vers ce qui la porte, avec son style à elle. Alors elle rassemble les feuilles éparses et repart, la peur au ventre. Et la deuxième fois, ça se déroule mieux. À un moment, elle cherche ses mots, perturbée. Voilà sa voisine qui complète sa phrase. Avec ses yeux, lui fait un petit signe. Elle en est toute ébobie. On cherche à l'aider ? L'atmosphère se détend. Elle ne se sent plus obligée de jouer un rôle. Ça progresse. Certains lui font confiance, d'autres attendent que ça passe. Tant pis. Elle les emmène chez le boulanger voisin. À eux de poser des questions. Non, pas moi. Ok, mais tu peux tenir le micro ? Comme ça, ça ne t'engage pas à grand-chose, tu peux le faire ? Ok, ça passe. Une jeune femme se lance. Pourquoi vous avez choisi ce métier ? Le boulanger répond simplement. Raconte ses galères. Les stagiaires peuvent s'identifier à lui. On passe ensuite à l'épicier, au pharmacien, à tous les magasins du quartier. Et les questions fusent de plus en plus facilement. Gagné. Le soir, Hyacinthe décrypte. Encourage. Ayez confiance en votre talent à rebondir sur les situations de groupe. Des choses se passent. Appuyez-vous sur votre capacité à vous identifier à ces personnes. Vous êtes ou vous avez été comme elles, démunies, intimidées, peu assurées. Vous les comprenez et vous pouvez montrer comment vous avez dépassé vos peurs. Et vous êtes capable d'animer un groupe, cela a de la valeur. Elle progresse, guide, subtile, sans orienter. reprend le fil quand il se perd. Son cadre est souple, sans faiblir. Si l'autre divague, elle se transforme en Barba Mama. Même pas mal. S'adapte, il reviendra peut-être. Elle lui donnera quelques miettes d'envie. S'il les renifle, c'est un premier pas. De fait, le groupe évolue au fil des séances. Une jeune femme négligée au début vient avec des vêtements plus colorés, se met à sentir bon. Une autre se prend de passion pour les interviews, étonnée d'être aussi curieuse. À la médiathèque, un quinquagénaire s'intéresse aux livres pendant qu'on interroge la bibliothécaire, une ex-ouvrière reconvertie. Même le salarié de l'association qui suit ses stagiaires raconte son parcours au fil des montagnes russes de la vie. Et ce jeune homme taiseux, peu habitué à sortir, se met à crier sa colère dans le micro, encouragé par l'animatrice qui utilise habilement son énergie. « Je ne veux pas faire de la radio !» Ce faisant, il en fait. Il sera ensuite embauché dans une association d'insertion. Et puis le groupe se moque d'elle gentiment. « Vous posez tout le temps des questions ?» Elle en rit. « Oui, c'est important pour moi de poser des questions. Je veux comprendre ce qui se passe autour de moi. Pas vous ?» Le jour de la restitution de l'émission de radio réalisée par les stagiaires, devant un public de bénévoles et de salariés de l'association, ça s'étonne, ça discute, ça débat. Même des difficultés à tracer son chemin en tant que femme, sans tenir compte des cases occupées par les unes, les uns et les autres. Fierté légitime. L'atelier est terminé, chacun repart. Aurélie se pince douloureusement, ne veut pas que ça s'arrête. À eux de continuer leur chemin, avec peut-être des traces lumineuses de cet intermède. Elle aussi repart. Un an plus tard, elle se remémore cette énergie-là. J'ai été capable de tenir la barre pendant toutes ces tempêtes. La dépression, la clinique, l'hôpital de jour, le bénévolat, la reprise du travail, le diagnostic. J'ai bien le droit de savourer ce qui, je l'espère, n'est pas seulement une éclaircie.
Alors ce que je vois sur cette image, c'est une succession de paysages, comme si j'étais sur un point de vue perché en hauteur, et que je voyais devant moi une succession de reliefs et de vallons. On peut imaginer plusieurs éléments, puisqu'il y a plusieurs couleurs, donc il y a du violet, du rose, du bleu, on peut penser à un cours d'eau, il y a une couleur jaune un peu ocre, comme si c'était un relief montagneux, et puis à l'horizon on voit d'autres textures un peu plus en pointillés ou en gros points, comme si ça pouvait être une forêt par exemple ou un bois. Et tout au bout de ces paysages on voit un ciel avec un soleil qui se couche, un soleil orangé couchant. Et puis on voit aussi des arbres sur la droite de l'image, comme en automne, parce qu'ils n'ont pas de feuilles. Du coup, ce que cette image m'évoque, c'est une fin de journée. Ça m'évoque aussi la fin d'un cycle avec les arbres qui sont sans feuilles, donc comme si c'était l'hiver et qu'on allait lentement recommencer le cycle de renaissance avec le printemps qui est annoncé. Et je la trouve plutôt agréable parce qu'on a l'impression d'avoir fait une rando ou d'être en vacances et de voir une succession de paysages qu'on peut contempler avec le cours d'eau. Donc c'est assez apaisant, je trouve. Et donc on a envie d'explorer, d'imaginer la vie sous-jacente à ce paysage. Et puis il y a un côté un peu imaginaire avec des couleurs qui sont inhabituelles sur un paysage comme le violet. Donc on pourrait imaginer aussi des créatures magiques. Voilà, je trouve que c'est... Des légendes, ce genre de choses.
Il vaut mieux fredonner sa vie que la réciter. Francis Danemark.
À l'abri, dans une expo, une œuvre l'interpelle. Une colline doucement escarpée. Des couches d'horizon s'entremêlent de toutes couleurs. Au bout, le soleil. En dessous, le nom de l'artiste, Mathilde Gros. Elle plonge dans le cadre et s'en délecte. Bien entourée par les barres de bois, elle se sent merveille. Rien ne peut lui arriver, le cadre la protège. Suffit de rester dedans bien droite et de sourire aux visiteurs.
Elle est montagne mélifluée. Elle ulule, funambule. Elle chatoyante, luxuriante, elle ruisselle et merveille. Elle fantasmagorique, électrique. Elle carpette, saperlipopette. Elle farandole, gondole, ralentit. Oh, un coquelicot respire le printemps, marrant.
En cet automne rougeoyant, Aurélie encore apprend. Le docteur Elie Crise lui a dit que c'était une maladie dont elle ne guérira pas. C'est chronique. Elle lui a donné l'adresse de la MGEN. C'est une institution ni publique ni privée qui fait partie de l'économie sociale et solidaire. Il y a là-bas des gens qui organisent des formations pour apprendre à vivre avec. Un truc réservé aux profs ? Non, c'est pour tout le monde. Alors elle prend son sac et y cavale. Elle commence à avoir l'habitude de toquer aux portes.
Il y a 7 enfants, elle apprend à marcher. Tu lui tiens les mains, elle se hisse sur ses jambes encore dodues, elle se lance, vacille, se rattrape. Elle a confiance en toi, elle te regarde concentrée. Tu es là pour la soutenir, la guider. Cet enfant, c'est toi.
Là-bas, un air bienveillant a ouvert la porte. On lui a proposé d'intégrer une session d'ETP, l'éducation thérapeutique du patient, sur la bipolarité. Une formation pour se rétablir, car si l'on ne peut en guérir, on peut mieux maîtriser la maladie. En attendant la formation, elle lit des livres, elle découvre qu'elle peut apprendre à apprivoiser son renard. Après plusieurs mois d'attente, ça démarre enfin. Ça fait seulement 2 ans que cela existe à Lille. Au début, le docteur Jasmin et Cosmos, l'infirmier, demandent quels sont les symptômes et les difficultés dont les participants souffrent. Tout le monde se regarde en chien de faïence. Aurélie hésite, se lance. Des périodes de dépression et des moments plus euphoriques. D'autres langues se délient. Je fais parfois des achats compulsifs. Je peux être agressive. Je dors tout le temps. J'ai des idées suicidaires. Après avoir entendu toute la liste égrenée par le groupe, le docteur Jasmin prend le relais. « Eh bien voilà, vous avez tout dit. Vous êtes les premiers à avoir une expertise sur votre propre maladie. C'est sur vous que nous allons nous appuyer durant cette formation. » Surprise. « Comment ça, une expertise ?» questionne une participante. « Oui, c'est vous qui ressentez les symptômes et vivez avec cette maladie depuis plusieurs années. Votre expérience est précieuse. » « Oui, oui, nous savons que ça peut paraître inhabituel, mais c'est notre façon de voir les choses. » Aurélie tend l'oreille, tandis qu'il poursuit. « Il y a toute une palette d'outils pour aller mieux, mais le plus important, c'est de changer le regard qu'on porte sur soi. » Cosmos montre un bol fissuré et recollé avec de la poudre d'or. Le kintsugi est un art japonais qui consiste à recoller les fissures d'un bol cassé en mettant en évidence les jointures. « Ces bols sont ainsi sublimés et deviennent uniques, » dit-il. On peut considérer qu'en traversant les épreuves de la vie, on se transforme et on se renforce. Ainsi, on peut mieux assumer qui on est, au-delà de la maladie. Un silence plein de déclics suit.
Je souffle un trouble bipolaire, mais il reste coincé. Essaye de le susurrer.
Lors d'une autre séance, Lupin témoigne devant le groupe. « Vous n'êtes pas des victimes. Nous ne sommes pas des victimes. Rendez-vous compte du courage que nous avons eu d'affronter ces épreuves. Et nous sommes toujours là. Il en a fallu de la volonté pour traverser tout cela. Nous sommes et vous êtes des corsaires. Je m'inscris en faux contre cette société qui valorise uniquement ceux qui ne chutent jamais. Ces discours sont galvanisants pour toutes et tous. » En discutant avec les autres, elle découvre que les personnes réagissent différemment face à la maladie. Cette septuagénaire, ah bon, on peut vivre vieux avec la maladie bipolaire ? Colère contre les médicaments pris toute sa vie. Celle-ci négocie de diminuer les siens pour garder sa vraie personnalité. Il y a aussi des personnes qui travaillent tout en étant en arrêt maladie régulièrement, quand ça ne va pas. D'autres qui ne travaillent pas ont des activités qui leur conviennent. À côté des médicaments, il y a plein d'autres chemins pour être bien. Le sport, les liens, et surtout prendre soin de soi. Pas simple de se forger un nouvel équilibre. La MGEN lui propose d'intégrer son hôpital de jour. Elle y retrouve un cadre, elle qui peine à trouver des activités épanouissantes hors du travail. Elle y apprend à mieux maîtriser ses marées hautes et basses. participe à la méditation une fois par semaine. Suit même une formation spécifique de plusieurs jours pour aller plus loin. Travail titanesque. Il consiste à faire l'inverse de ce qu'elle a intégré toute sa vie. Un exercice consiste à s'étirer doucement en respirant. Au début, elle a envie d'accélérer le rythme, s'énerve intérieurement. Ah, cette envie de passer vite à autre chose. Les pensées la cernent. La liste des choses à faire après la méditation s'allonge. Mais non, la voix la fait redescendre, douce et patiente. N'essayez pas d'entrer en compétition avec vous-même ni avec les autres. Ah oui, c'est vrai. Quelle conne je fais, j'ai encore merdé. L'assaille la voix vénéneuse. Non, ce n'est pas grave, interrompt son autre voix. Essaye encore. Elle revient dans l'instant présent, se centre sur son corps, ralentit. Prend conscience de ses gestes. Au fil des minutes, s'habitue. Que c'est bon de ressentir ces mouvements qui la calment. Son souffle prend son temps. Elle voit au loin une petite lumière. Elle irradie vers ses voisins et finit dans la joie. Merci, madame. Oui, je n'oublierai pas ce que je fais ici. Je peux le faire ailleurs, chez moi, au travail. Juste quelques minutes pour moi.
Tiens, je n'ai plus peur des enfants. Je m'amuse avec eux. Tiens, j'ai lu sans angoisse le journal qui parlait d'un meurtrier et de sa condamnation à 30 ans de prison. Bientôt, arriverai-je à regarder TF1 sans moufter ? Tiens, je me suis vue l'autre jour dans le miroir chez le coiffeur, je me suis trouvée jolie. Tiens, je me suis épanouie dans ce magasin. J'ai essayé des robes pieds nus, je me baladais parmi les clients, je me fichais de leurs regards. Tiens, à la piscine, j'ai longé le bassin, sans serviette pour cacher mon corps. Je me suis même arrêtée pour repérer mon frère venu avec moi. Tiens, j'ai parlé à un SDF dans la rue, tranquillement, tout sourire. Tiens, j'ai envie de quelque chose, je le cueille, c'est à portée de main, suffit de l'attendre. Tiens, je n'arrive pas à tout faire, pas grave, je fais ce que je peux. Tiens, je sais dire non, j'ai su recadrer ce copain et je n'ai pas de pincement au cœur. Tranquillement, je lui ai dit son fait, il était surpris, il s'est excusé de ne m'avoir mal parlé. Heureusement que j'ai eu un malaise à la prise de sang, sinon j'aurais pu croire que je n'étais plus moi.
Marc ? Ouais, c'est Loïc, là. Je suis rentré à Lille, là. Écoute, j'espère que tout va bien. Moi, ça va. C'est juste, tu sais, c'est super qu'on bosse ensemble. Je trouve ça vraiment génial. Tu me fais rentrer dans le rap game. Moi, je trouve que j'adore le smurf et tout. Et en même temps, tu m'as appelé direct. Tu sais, on est des copains, quoi. Donc, j'ai dit oui. De tout mon cœur, hein, parce que... Mais j'ai pas osé te le dire, parce que j'ai pas comment te le dire. J'espère que tu vas pas mal le prendre, hein. Mais la supercherie a assez duré, tu sais. Marc, je suis pas un vrai rappeur.
J'aime les gens qui doutent, les discrets, les silencieux, vieux, ceux que personne n'écoute, ceux qui se perdent en cours de route, ceux qui passent entre les gouttes, les réservés, ceux qui marchent en dedans. J'aime ceux qui groovent sur un autre temps, un peu maladroit, un peu lent, ceux dont les appuis vacillent à contre-vent. J'aime ceux dont le nom dit en dit long, loin des slogans grandiloquents bidons. Ceux dont le nombril ne fait pas d'ombre, il s'efface, ni pigeon ni leader d'opinion. Ceux qui restent à l'écart quand l'assurance de l'arrogance avance, qui se questionnent en permanence. Ceux qui n'ont pas de réponse, ni fer de lance, à leurs yeux la grande gueule, la guerre de sens. J'aime les gens qui doutent.
J'aime les gens qui doutent.
Oui, j'aime les gens qui doutent. Ceux qui ne tirent pas la couverture, ceux qui brillent par leur ouverture. Ils ont la plume dont les lignes souvent se raturent, ceux dont les pieds ne sont pas sûrs. J'aime ceux qui tapent à côté, ceux qui se plantent, qui n'emmènent pas large quand ils retentent. La peur de mal faire les terrifie, les hante, ceux dont la voix parfois déchante. Eux, ils ne détiennent jamais de vérité, sont toujours en retrait, tu peux le vérifier. Éternel apprenti rempli d'humilité. Eux, s'ils ne veulent pas la lumière, c'est par timidité. J'aime leur souci d'imperfection, leur hésitation à chaque nouvelle intersection, leur mesure, leur tenue, j'aime leur perception, leur prise de recul avant l'interjection. J'aime les gens qui doutent.
J'aime les gens qui doutent.
Oui, j'aime les gens qui doutent.
Avec Miette, avec les autres égratignés du groupe de thérapie, elle fait à présent des bonds géants au fil des exercices. Elle tient le ballon en face, une autre le tient, résiste. Elle aussi résiste. L'autre lâche, elle tient toujours le ballon et rien de grave ne se passe. Le monde ne s'écroule pas. C'est au tour de Fuchsia. Elle doit marcher lentement, parcourir la pièce, se sentir belle. Elle commence un peu gênée, puis encouragée par les autres, elle avance enfin, calme, digne, belle. Libérée, délivrée, toute chante cet air connu et éclate de rire, tout en ancrant cet hymne au plus profond de soi. On pointe sa capacité d'auto-observation, voire d'auto-dissection. Heureusement qu'il y a eu cette habitude d'observer les autres. Elle ne saute plus d'une pensée à l'autre comme une puce d'un pli à l'autre. Elle apprend à s'émanciper de ses fonctionnements automatiques, de ses a priori. Mimosa lui fait peur et elle l'admire aussi. Elle s'affirme, tient tête à Miette, un vrai roc. Et puis elle s'écroule, elle aussi expose ses failles. Aurélie lui trouve une part d'elle-même. Comment peut-elle être si dure et si fragile, simplement comme les autres ?
Alors, donc, la description, du coup, je vois plusieurs ronds colorés autour d'un personnage, avec des lunettes, on dirait. J'ai l'impression que c'est quelqu'un de déguisé. Au début, j'avais pas vu le personnage, donc c'est en m'approchant que j'ai vu qu'il apparaissait. Les couleurs, elles me plaisent. Il y a du bleu, du jaune, du rouge... Moi j'aime bien, c'est assez gai. Je peux parler de mon ressenti du coup. J'ai l'impression que la personne elle est dans sa bulle. Et du coup j'ai l'impression que c'est moi dans ma bulle quand j'ai envie de me sentir en sécurité, de me protéger. Voilà. Par contre j'ai l'impression que le bonhomme il est quand même un peu surpris, étonné. Voilà.
Lors d'une séance en individuel avec Miette. Hihi. Pourquoi tu ris tout le temps? Ce n'est pas drôle ce qu'on se dit. Je ne sais pas. Plus tard. Je crois que je me protège de cette façon. Avant j'étais timide, puis je me suis bricolé un bouclier avec le blason de l'ironie. L'ironie est mortifère. Même l'autodérision? Oui, aussi. Pourquoi tu n'essaierais pas d'être juste authentique? Je vais être toute nue? Si tu le dis. Dans ce cas, les autres aussi sont tout nus. Ah bon, ça va alors, je ne risque rien. Aurélie rassemble ses miettes et sculpte son tout. Maintenant, elle sait que tous ses efforts fournis ces derniers temps sont féconds. Elle s'écoute, ressent ses peurs et ne les enfouit pas tout au fond. Quand elle doit prendre une décision, d'abord elle respire, se relie à son corps, ses ressentis, ses émotions. Est-ce juste ? Et puis se fait confiance. Dans son esprit, le travail retrouve sa place, rien que sa place, pas plus. Elle n'a pas à se surpasser, ni à faire des heures sup, ni à proposer tout le temps plein d'idées. Non, là, il est l'heure d'y aller, j'ai piscine. Et aucune pointe de culpabilité. Elle découvre les failles de son amie Coquelicot. Celle-ci lui confie être déprimée depuis quelque temps. Aurélie tombe des nues. Elle la sentait si forte. Pourquoi n'en as-tu pas parlé auparavant? J'ai pris l'habitude de faire avec dans ma vie quotidienne. Je ne veux pas embêter les autres avec ça. Mais si, c'est important d'en parler. Parlons-en. Heureusement, il y a l'entraide, la compassion.
Sur le chemin, le petit banc de bois l'appelle. Il est couvert de feuilles. Asseyons-nous. Pourquoi personne ne s'est assis là pour contempler les arbres et les passants? Par quelle magie les gens se meuvent-ils
aussi doucement, tels des fantômes. Le petit banc va-t-il la noyer sous les feuilles si elle reste là assez longtemps? Pourquoi elle ne s'y asseyait pas avant? Comme c'est bon d'être là, juste, pas d'ego, juste l'odeur du banc, le bruissement des oiseaux et cette fente dans le macadam qui laisse deviner des trésors là-dessous.
Aurélie grandit en elle. Elle ose. Propose au docteur Jasmin et à Cosmos d'intervenir à son travail pour expliquer cette maladie à ses collègues. Sa directrice est emballée. Le jour dit, un peu inquiète, elle les écoute prendre la parole. Votre zone de confort dépend de votre fragilité à un point T et du stress que vous subissez. Quand vous êtes en forme, vous pouvez supporter une bonne dose de stress. Mais plus vous êtes fragile, plus vous risquez de sortir de votre zone de confort et de craquer en cas de petit stress. Pour les personnes souffrant du trouble bipolaire, c'est simplement plus fort. Mais nous sommes tous vulnérables, note-t-il, malin. Un collègue réagit. Je comprends bien, mais je ne me sens pas capable d'aider Aurélie. Il n'y a pas à se sentir obligé de quoi que ce soit. Chacun fait ce qu'il peut. Sur le coup, peu de collègues posent des questions. Mais un peu plus tard, certains viennent lui parler. L'un de son sentiment d'impuissance face à un père sombrant dans la dépression en fin de vie. L'autre du conjoint d'une amie qui montrait des signes inquiétants. Elle devient ainsi une conseillère avisée. Bientôt un doctorat S vulnérabilité. Elle en profite pour leur remettre une note avec des conseils de comportement envers elle en fonction de ses états hauts ou bas. La calmer quand elle est up, la rassurer quand elle est down.
Des hauts, des bas, des hauts, des bas, bas. Des bas qui glissent, s'effondrent. Des hauts qui se laissent désirer. À quand les hauts? Fini les bas. Rêve de milieu stable, mais ça vagabonde. Soubresaut tout le temps. Apprends.
À la maison des usagers de la MJEN, on lui parle d'un groupe d'entraide, les Kintsugi, dont le but est de parler de ses difficultés sans infirmier. Toutes ces personnes s'encouragent les unes les autres. Cela fait partie de leur palette de ressources pour naviguer sans trop chavirer. Tous les 15 jours, elles se rencontrent, se confient, s'épaulent, se donnent des petits défis pour les fois suivantes. Elles s'y font rapidement et se sentent progresser. Écoutent les autres et donnent ses idées. Elles s'apprivoisent peu à peu. Lors d'une séance, Alice s'épanche. On perd ses amis quand on ne va pas bien. Moi, je ne sais parler que de mon mal-être. Cela épuise les gens. Mais je ne sais pas quoi dire d'autre, je vais mal, j'ai tellement besoin d'être écoutée. Moi aussi je sens les quelques amis que je gardais s'évanouir, réagit Véronique. Ça leur fait peur de me voir dans cet état. Peut-être qu'elles craignent que ça se transmette. C'est un peu comme les gens qui perdent pied et deviennent SDF. Ils perdent le lien social, les amitiés s'effilochent. Je comprends et je l'ai ressenti aussi, cette impression de déranger parfois, confie Aurélie à son tour. Mais l'amitié est à double sens. Chacun donne et reçoit. Si je leur parle tout le temps de mes problèmes, mes amis vont se lasser, à moins qu'elle n'ait une âme de Saint-Bernard. Mes problèmes envahissent toute ma vie, reprend Alice. Écoute, note Aloès, quand tu es allée faire un bain de nature au bois avec les autres là de l'hôpital le jour, tu as parlé de tes problèmes? Non, j'étais plongée dedans. Et tu t'es sentie mieux ensuite? Oui, ça m'a fait du bien, j'ai respiré. Pourtant, tu n'as pas pensé à tes problèmes ni ressenti le besoin d'en parler pendant la malade. Ça n'a pas duré, mais pendant le bain de nature, je ne me prenais plus la tête. Quant à tes amies, pourquoi tu ne leur demanderais pas pourquoi elles prennent des distances? Peut-être que c'est dur pour elles de t'entendre te plaindre. Peut-être qu'elles se sentent tout simplement impuissantes. Moi, raconte Aurélie, avant mon burn-out, ça m'est déjà arrivé d'entendre une amie se plaindre d'aller mal. Je sentais un malaise pousser en moi. Je faisais l'éponge. Son mal-être me gagnait. Je ne savais pas trop comment réagir. Je l'ai fui. Je ne voulais pas paraître égoïste. J'aurais dû l'aider, j'étais son amie. mais je me sentais coincée. Si tu ne lui dis pas ce que tu ressens, la relation en souffre, reprend Aloès. Que risques-tu ? Avec certaines amies, je passe du temps à parler de moi. Elles aussi me parlent d'elles. Je sais aussi que d'autres amies ne supportent pas que je m'épanche trop. J'en tiens compte, c'est comme ça. Si ça ne me convenait pas, j'arrêterais. Oui, j'en ai besoin tout de même. Moi, j'ai retrouvé un cercle amical à l'hôpital de jour. C'est Véronique qui se glisse. On a tous des problèmes, on peut en parler aux autres, on se comprend. Il y a un temps pour parler, il y a peut-être d'autres temps pour vivre ce qui vient. Aloès pose sa main sur l'épaule gracile d'Alice, qui sourit. Un autre jour, ça se corse. Agapante, une nouvelle venue, a l'air au bout du rouleau. Ça ne va pas du tout, je n'arrive à rien, je suis nulle. J'ai tout essayé, les TCC, la psychanalyse, les médocs, la marche nordique, ça va toujours aussi mal. Je voudrais être comme tout le monde, avoir un mari, des amis, un boulot. Je voudrais tellement être heureuse. Mais je ne peux recevoir personne chez moi, c'est un capharnaüm et je suis incapable de ranger. Parfois, la tentation du suicide me retraverse. Les autres se figent. Agapante a déjà fait plusieurs tentatives. « Tu t'en demandes beaucoup, là, » réagit Véronique. « Il faudrait qu'en un clin d'œil, tout change. Tu ne peux pas te dire que ça va aller mieux progressivement ?»« Oui, je sais, mais j'en ai marre de tout en ce moment. Quand est-ce que ça va s'arrêter ? Je suis épuisée. »« Tu as essayé la méditation ?»« Oui, j'ai l'impression de respirer sur le coup, mais je me retrouve à 1000 mètres sous terre dès que ça se termine. » Et l'EMDR, c'est une thérapie par mouvement oculaire qui cible les mémoires traumatiques. Ça peut t'aider sur les traumatismes de l'enfance. Ça n'a pas marché. J'ai essayé aussi l'équithérapie, non plus. Ça m'a donné des crises d'angoisse. Silence dans le groupe, qui s'affaisse, s'use. J'ai le sentiment que tu te cognes toujours contre le même mur, souffle Alice. Tu ne vois que lui. Mais si tu fais un pas en arrière, tu verras peut-être qu'à côté du mur, il y a plein de passages où tu peux t'engouffrer. On dirait que tu es dans un cercle, ose Aurélie. Si tu restes dedans, comme le hamster sur sa roue, tu n'arrives jamais à sortir de tes problèmes. Tu ne vas pas bien, tu regardes les autres, ils ont l'air d'aller tellement bien, alors tu aimerais aller comme eux. Mais ce n'est pas possible, ou en tout cas du jour au lendemain. Alors tu vas encore moins bien. Il se produit la même chose dans le groupe, on dirait. Plus on te propose des pistes de solutions, plus tu dépenses ton énergie à dire que ça ne marche pas sur toi. On se sent impuissante. Comment sortir du cercle infernal ? Oui, c'est ça la question. Je sais bien que je m'auto-sabote. Soupir, regard au sol. Je ne sais pas si on a été très aidante. Comment te sens-tu maintenant ? Demande Véronique. Je me réchauffe un peu à l'intérieur. C'est peut-être parce que vous êtes là, autour de moi, à essayer de m'aider.
Je ne suis pas bipolaire, je suis triphasée. Yvon.
Je mettrai plus les pieds dans cette tôle, là.
Radio Campus 106,6, la radio qui ne rentrera pas là-dedans.
Vous écoutez toujours Radio Campus et le matou revient. La fiction radio bipolaire Buffol n'est plus près de la fin. La fin du 6e chapitre sera donc diffusée mercredi 27 mars à 13h. Et le dernier chapitre, le chapitre 7, sera diffusé vendredi 29 mars à 14h. Vous pouvez vous tenir au courant en consultant le site de Radio Campus, campuslille.com, sur le blog du Matou, ou en allant sur le Facebook du Matou Revient. Ces émissions pourraient être écoutées en podcast durant 2 mois, puis sur le site Bandcamp du Matou Revient. Vous pouvez aussi réagir en critiquant ou en louant cette fiction en écrivant à lematourevientmiaou@gmail.com. On continue en musique avec Clarica et Jeanne Chéral, des chanteuses de caractère.
Moi, au mieux, c'est être grande avec des cheveux qui descendent là le long du creux et retombent tout en bas du dos en cascade et ça fait beau. C'est dans cette comme Shakira sur des textes de Barbara. Belle et super accessible, intelligente et sensible. Moi, au mieux, c'est tout comprendre sans la ramener. Avoir les codes pour décrypter un avis enfin personnel sur la Palestine, Israël. C'est aller à toutes les manifs, mais y rester jusqu'au bout, sans bifurquer au bout d'une heure au café pour boire un coup. Et je marche solaire sur la 5e avenue. L'ombre des tours de verre m'adore et me salue. Moi, je suis ce super sur le néant. Moi, au mieux, c'est adorer le temps qui passe, trouver que c'est trop cool de vieillir, que la sagesse devant la glace est le meilleur des élixirs. Ne plus avoir peur de mourir, c'est normal, c'est l'aboutissement, et le meilleur reste à venir, et ça le penser vraiment.
Semaine des quatre jeudis, y a de la joie au réveil. On veut rouler en ami 8, en fumant des Havanes menthol, chevaucher des météorites, sauter des avions en plein vol. Et l'amour en tête de gondole, et l'amour en tête de gondole. En faillite, la fin des puissants et des rois. On veut le droit à ne rien faire, la paresse en axiome, le plaisir pour tous sur la terre, sous un ciel polychrome. Et l'amour en tête de gondole, et l'amour en tête de gondole.
Un jour t'es... sans mérite. Allez vite, allez. De toute façon, un jour t'es mort. Alors, autant qu'on en profite tout de suite. Tout de suite, la belle vie sans mérite. Allez vite, allez. Tout et plus encore. Avant l'effort, le réconfort. De toute façon,
me cacher sous les lits, débrancher le téléphone et m'enfermer à clé. Je sais très bien faire la morte dans mon bain sans un bruit, pas répondre quand ça sonne, bref, me faire oublier. J'ai peur des cris et des chats, c'est sans doute pas normal, et ça fait rigoler ceux qui n'ont rien d'autre à faire. Je me réfugie sous mes draps dans les moments fatals, quand c'est l'heure d'y aller, je rentrerai bien sous. Un problème de relation, c'est mental, c'est viscéral. Y a pas de solution. Faut te soigner, me dit ma mère. Faut décoincer, me dit Albert. Faut dire ce qui est, parce que c'est vrai. Je suis. Psychotimide. J'aime pas descendre les poubelles, jeter des vieilles affaires, tourner le sablier et changer de chaussettes. J'aime pas apprendre une nouvelle, ni les anniversaires, ni les 1er janvier, ça me fait mal à la tête. J'ai peur des informations, du nom de rue qui change, des soutiens-gorge trop petits et des hommes politiques. Je me pose pas trop de questions, je fais comme ça m'arrange, si je suis lente, et bah tant pis, mieux vaut ça qui c'était. C'est que j'ai, comme qui dirait, un problème de relation. C'est mental, c'est viscéral. Y a pas de solution. Faut te soigner, me dit mon père. Faut évoluer, me dit Albert. Faut dire ce qui est. Je m'y ferai jamais. Je suis. Psychorigide. Alors à 17 ans, je me suis dit, arrête ça, ça n'a pas l'air très réglo. Un jour, Albert m'a surprise pendant que je regardais les hommes nus de la redoute, ça l'a rendu jaloux. Il m'a titillé la cerise, ça m'a pas dérangé, maintenant j'ai l'habitude. Mais
je sens rien du tout. C'est marrant, hein. C'est que j'ai, comme qui dirait, un problème. C'est mental, c'est viscéral. Y a pas de solution. Faut te soigner, me dit mon frère. Faut prendre ton pied, me dit Albert. Faut dire ce qui est. J'y peux rien, mais je suis. Ouais, c'est ça. Psychofrigide. C'est viscéral, je suis comme ça, c'est pas marrant. Je suis comme ça, c'est pour longtemps, c'est pour toujours. Mais l'important c'est que je me supporte. Et si un jour je me supporte plus, et ben je changerai. Et si je change pas, je partirai. Je laisserai Albert sur le carreau. Y'a pas de lézard, faut que je me barre. Y'a pas de lézard, faut que je me barre. Si je n'étais pas si secret, si avant de parler, cette fois ma langue n'allait rotative, si je ne comptais pas mes doigts pour éviter toute dérive, si chez moi les bonnes manières n'étaient pas si envahissantes, je les écraserais par terre avec une force ahurissante. Si je n'accrochais à mes tempes deux impeccables favoris, si je n'éteignais pas la lampe lorsque j'ôte mes deux sous-gris, si je ne rougissais pas tant, si je frémissais un peu moins, si par plaisir de temps en temps je m'accordais un petit joint, si ma vie était moins parfaite, si j'avais le goût du danger, si je savais faire la fête et juste un soir te déranger, si j'acceptais de prendre part aux discussions grasses et salaces, pour moi aussi avoir ma part du gâteau leur. Dégueulasse, si j'arrivais de ma campagne avec mes gros sabots merde, si je me baladais en pagne avec des airs libidineux, si je te regardais de haut, si je te prenais par derrière, si j'atteignais les idéaux de ceux qui cassent les barrières, si je n'avais plus peur de rien, si je ne craignais plus personne, je pourrais te dire allez viens, je t'emmène en Sierra Leone avec classe et virilité, je décrocherais du plafond l'abat-jour couleur voie lactée pour te l'offrir. Mais mon grand malheur, c'est qu'avec des si, on peut aller très loin sans où je me retrouve à sec. Je ne fais rien, je ne fais rien, je ne fais rien, je ne fais rien, mais alors rien. Ce qui s'appelle rien.
Le matou revient, c'est terminé. L'émission suivante s'intitule Goodbye Kevin et nous nous retrouvons donc mercredi prochain. Ciao.